Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h, bon réveil.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et voici toute l'actu que l'on va développer dans cette première édition. Une journée d'hommage à Samuel Paty. C'était il y a pile un an, le professeur d'histoire géo était assassiné. Une série d'hommages dans le Val d'Oise où il vivait et dans les Yvelines où il enseignait. Emmanuel Macron a passé la nuit à Marseille. Il est venu relever les compteurs après l'annonce du plan Marseille en grand début septembre. Reportage sur place. Et puis le foot, le PSG a eu chaud hier soir. 2-1 contre Angers et un arbitrage qui crée la polémique. Vos rendez-vous dans la prochaine demi-heure, 6h12. Les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet qui se court sur l'hippodrome d'Auteuil aujourd'hui. Puis l'interview de Philippe Legrand. Une date, une histoire avec l'écrivain Jean-Christophe Granger. 6h23, on va partir en balade, vous le savez, avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Direction la Bourgogne et on va déguster des œufs meurettes. La tendance météo, bonjour chère Valérie Darmon.
Bonjour Thierry et bonjour à tous.
Ça va bien? Bien,
très bien, très bien. Je vous annonce encore du soleil, donc ça fait du bien forcément. Beau partout, une fois dissipé, parfois tardivement, c'est vrai un petit peu. Les brumes et les brouillards de ce matin, plus nuageux un petit peu au nord. Très très belle journée en montagne, des températures entre 14 et 23 cet après-midi. Un week-end d'automne comme on les aime.
Météo complète dans 8 minutes.
Europe 1.
C'était donc il y a un an, jour pour jour, le professeur Samuel Paty était poignardé, décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. Les hommages vont se succéder ce samedi 10h30, inauguration d'une plaque dans l'entrée du ministère de l'Éducation avec plusieurs ministres, dont le premier d'entre eux, Jean Castex. En milieu de matinée, les habitants de la commune d'Éragny-sur-Oise, où il habitait le professeur Paty, se réuniront en début d'après-midi. Hommage à Conflans-Sainte-Honorine avec la prise de parole des enseignants du collège du Bois d'Aulne où le professeur enseignait. Des commémorations que redoute Rose, elle est en quatrième, ainsi que sa mère Elsa.
C'était difficile de replonger parce qu'en fait c'était les mêmes pleurs qu'on avait vécues un an avant. Il y a beaucoup d'émotions qui reviennent, surtout de la tristesse et puis on pense surtout à son fils qui va grandir sans repère.
Je pense qu'ils sont replongés dedans depuis bientôt 15 jours. Ils ont eu une horloge dans la tête hein, avec la date qui approchait. On en entendant parler petit à petit, et puis une date comme ça, ça ne s'oublie pas. Ils avaient besoin de partager ça avec leurs enseignants, leurs amis. C'est une bonne chose.
C'est un peu dur, mais faut tenir le coup.
Il faut être là jusqu'au bout, comme on l'a toujours été, je crois.
Elsa et sa fille Rose au micro Europe 1 de Marion Gauthier. Et la famille de Samuel Paty sera reçue dans l'après-midi par le chef de l'État. Emmanuel Macron qui se réveille ce matin à Marseille. Il y est arrivé hier en fin de journée. Il s'est rendu notamment dans les quartiers nord pour conclure une rencontre entre pouvoirs publics, associations et entreprises. Le président qui est venu faire un point d'étape sur la mise en place de son plan Marseille en grand. Ce sont des mots et sur place, eh bien, on attend maintenant des actes et des mesures concrètes. À Marseille, Stéphane Burgat.
Après les mots d'amour, tout le monde espère maintenant des preuves, du concret, notamment sur le volet de rénovation de 174 écoles. Enseignants, parents et municipalités, tous attendent de connaître le montant de la participation de l'État. Le maire, Benoît Payan, ne cache pas son impatience.
Le président avait dit qu'il allait revenir à Marseille, il est là, il revient. On s'est mis au travail et maintenant on attend de l'État des décisions. On attend que le président de la République nous livre sa version des choses et puis surtout nous annonce l'aide de l'État pour les écoles, bien sûr, pour les transports. Pour la métropole.
Car la municipalité l'a matraqué toute la semaine, le plan de rénovation des écoles est fin prêt, à un détail près, le calendrier des chantiers, 10 ans ou 50 ans pour les faire, tout dépendra du montant engagé par l'État. Mais Emmanuel Macron entretient le suspense, rien n'a filtré de son dîner de travail avec les élus et au final, s'il doit y avoir des annonces présidentielles durant ce court déplacement, ce pourrait être ce matin quand Emmanuel Macron prendra la parole en clôture du Congrès national des pompiers. Les pompiers qui attendent un engagement du chef de l'État concernant la réforme du statut des volontaires. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et décidément un samedi chargé pour Emmanuel Macron, puisqu'il déposera en milieu d'après-midi une gerbe sur les berges de la Seine, sur le pont de Bézons qui relie Nanterre et Colombes. C'est là qu'il y a 60 ans, a eu lieu le massacre des Algériens, des manifestants qui arrivaient du bidonville de Nanterre à l'appel de la branche du FLN installée en France. Il y aurait eu, selon les historiens, près de 200 morts. Emmanuel Macron devrait être accompagné de l'historien Benjamin Stora, qui sera d'ailleurs l'invité à 8h40 de Jean-Pierre Elkabbach. On en reparle dans le journal de 6h30. C'est un choc en Angleterre. Le député conservateur David Ames a été poignardé hier soir dans l'Essex, à l'est de Londres. La police qualifie le meurtre d'acte terroriste. Un homme de 25 ans a été arrêté à l'endroit où le député recevait ses administrés. L'homme interpellé serait un ressortissant britannique d'origine somalienne. Choc et tristesse pour le Premier ministre Boris Johnson.
Je crois que nous sommes tous choqués et attristés par la mort de Sir David, un député tué dans sa circonscription après pratiquement 40 ans de service continu auprès de la population d'Essex et du Royaume-Uni. Il était avant tout l'un des hommes politiques les plus bienveillants et les plus honnêtes qui soient. Il avait contribué à faire passer un nombre record de lois pour aider les plus vulnérables, des personnes qui souffraient d'endométriose par exemple, des textes pour mettre fin à la cruauté envers les animaux. Et il faisait énormément pour réduire les causes de la pauvreté dans le pays.
Voilà la réaction de Boris Johnson. Le groupe État islamique revendique l'attentat suicide qui a fait une quarantaine de morts lors de la prière hier dans une mosquée chiite de Kandahar en Afghanistan. Retour en France avec la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques depuis hier, sauf avec une ordonnance médicale de 22 à 44 euros. Alors, est-ce que cela va inciter les opposants au vaccin à changer d'avis ? Reportage dans des pharmacies parisiennes de Yasmina Katou.
Je paierai. Je refuse de me faire vacciner.
Jacqueline, 70 ans, vient de débourser 25 euros pour un test antigénique en pharmacie. Test nécessaire pour prendre son train ce week-end. Pas de quoi décourager la retraitée.
Pour moi, c'est pas cher parce que j'ai des bons revenus. C'est pas normal de nous faire payer. Je pense que c'est pas normal. C'est faire payer des gens comme moi qui ont des convictions contre le vaccin. Mais quand on a la chance comme moi d'avoir le choix, ça changera rien.
Mais d'autres n'ont pas le choix. 25 euros le test pour 72 heures de validité, c'est trop cher payé, dit Sana. Tant pis pour sa vie sociale.
J'avais dans l'intention de sortir et que voilà, ce sera pas possible, mais c'est pas grave. Mais voilà, boire un verre, par exemple. Je vois pas pourquoi je paierais pour ça et je sortirais pas. Et enfin voilà, y a pas mort d'ordre non plus. Mais bon, ça reste quand même énormément contraignant.
Mais est-ce que vous allez tenir comme ça pendant 6 mois, 1 an ?
Ah ben, c'est une bonne question. Mais c'est pas pour autant que je me ferai vacciner, honnêtement.
La Parisienne n'exclut pas de demander des ordonnances à son médecin traitant pour que ses tests de confort soient remboursés malgré tout.
Yasmina Katou, et puis notez qu'à 7h moins le quart, je recevrai le professeur Didier Pité, infectiologue et épidémiologiste. On en reparlera bien sûr avec lui. La date est tombée, c'est officiel. C'est à partir du 8 novembre qu'il sera possible de voyager à nouveau vers les États-Unis. Et c'est une très bonne nouvelle pour les compagnies aériennes qui espèrent enfin la reprise du trafic. Aurélien Fleureau.
Les professionnels du secteur aérien vont y voir plus clair. C'est donc à partir du 8 novembre qu'ils vont pouvoir recommencer leur plan de vol en direction des États-Unis. Un soulagement, alors qu'en France, le trafic des aéroports parisiens en septembre n'était que de 50% par rapport à celui de 2019. Pour une compagnie comme Air France, cette reprise est primordiale, expliquait sa directrice générale Anne Rigaille il y a quelques jours.
La reprise vers les États-Unis, nous l'avions prévue cet été, nous l'attendions avec impatience, nous avons eu cette très très bonne nouvelle. Nous avions déjà offert à nos clients un programme avec une reprise de l'intégralité de nos destinations, donc 100 vols par semaine. Il faut voir que c'est 40% pour nous ce marché, il représente 40% de notre activité.
Pour voyager, il faudra être vacciné et se faire tester dans les 3 jours avant le départ. Air France avait remarqué que ses réservations s'étaient surtout accélérées à partir de la mi-novembre, mais ceux qui avaient tenté leur chance pour un éventuel vol au tout début du mois pourront le décaler. Ce choix du 8 novembre va donc empêcher les Européens de profiter des vacances de la Toussaint et va priver également les coureurs étrangers du marathon de New York qui aura lieu le 7 novembre.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et justement, c'est demain le marathon de Paris. Près de 35 000 coureurs attendus. C'est la reprise après l'annulation l'an dernier pour cause de Covid. Départ 9h, attention car la circulation sera interdite demain dans le cœur de la capitale. Le foot avec la 10e journée de Ligue 1 et le PSG qui a eu très chaud et qui s'est finalement imposé face à Angers 2-1. But de Pereira et pénalty de Mbappé contesté et un arbitrage au centre des discussions hier soir. Cyril de la Morinerie.
Je me sens pas bien parce que j'ai toujours dit à ma famille que je ne pleurerai jamais par rapport aux décisions d'arbitre et ce soir c'est plus fort que moi.
La colère froide de l'entraîneur d'Angers, Gérald Baticle, conteste la validité des deux buts encaissés. D'abord, cette passe décisive de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien était visiblement en position de hors-jeu. Or, le but de Danilo Pereira fut malgré tout confirmé. Mais surtout, il y a ce pénalty sifflé après l'intervention de la VAR pour le PSG. Les arbitres ont retenu la faute de l'Angevin Capel dans la surface de réparation. Pourtant, l'attaquant parisien Mauro Icardi avait quelques secondes auparavant tiré sur le bras du joueur angevin Romain Thomas. L'entraîneur du SCO, Gérald Baticle, estime que la VAR s'est totalement trompée.
Je suis favorable à la VAR parce que pour moi, la VAR corrige 70-80% des erreurs. Par contre, lorsque vous êtes dans les 20% qui ne sont pas corrigés, ça fait très mal. Il y a beaucoup d'incompréhension, un gros sentiment d'injustice.
En attendant, certaines grandes figures comme Thierry Henry, Arsène Wenger aimeraient que les arbitres soient équipés de micros afin d'entendre leurs conversations, ce qui pourrait aider à mieux comprendre leurs décisions.
Et à 15h, Clermont reçoit Lille et à 19h, Monaco se déplace à Lyon.